Le 7-9 de Matin Première.
Il est 7h49, bonjour Thomas Gadisseux.
Bonjour à tous.
C'était la priorité pour affronter la deuxième vague, le dépistage massif. Mais le dispositif serait-il déjà en train de saturer? Et pourquoi? On en parle avec un homme qui a peut-être une solution pour éviter ce dérapage.
C'est le vice-recteur chargé de la recherche à l'université de Liège. Il s'appelle Fabrice Bureau. Il est celui qui a mis en place la nouvelle plateforme de testing qui sera opérationnelle dans moins d'un mois. Cette plateforme, en gros, c'est l'association entre les universités et les grands laboratoires de biologie clinique pour contrôler l'ensemble de la filière avec des outils publics pour ne plus dépendre justement des produits en pénurie. Fabrice Bureau était un professeur en médecine vétérinaire en fait, et bien avant le confinement, il a vu venir ces pénuries, il a acheté sur les marchés des produits qui lui permettent aujourd'hui d'offrir une solution.
Bonjour Fabrice Bureau.
Bonjour.
Partout en Wallonie, partout à Bruxelles, les centres de dépistage du coronavirus organisés par les hôpitaux ou les régions sont littéralement envahis. Comment expliquez-vous que ces centres soient autant sous pression aujourd'hui ?
Ah oui, ça dépend surtout du nombre de personnes qu'on envoie et qui ne sont pas positives. Donc pour l'instant, les prescriptions qui font que les personnes arrivent à l'hôpital sont telles que 10% seulement de ces personnes sont positives. Donc 90% des personnes qu'on envoie à l'hôpital sont négatives. Et donc ça sature évidemment les hôpitaux.
À l'université de Liège, depuis 2 semaines, les étudiants et les membres du personnel peuvent se faire tester gratuitement et de manière anonyme avec un test salivaire, un kit d'auto-prélèvement qui n'est pas disponible d'ailleurs ailleurs. Est-ce pourtant, selon vous, la solution, Fabrice Bureau?
Oui, je ne suis pas le seul à penser. Donc, justement, comme je vous le disais, si on arrive à envoyer à l'hôpital des personnes qui sont positives, cela va soulager évidemment le corps médical et désengorger les hôpitaux. Et donc l'autoprélèvement salivaire, qui ne nécessite pas l'intervention du personnel médical, permettrait de faire un pré-tri et de savoir sur base de ce test salivaire si les personnes sont positives ou pas. Et les personnes positives, là, seraient envoyées dans les centres hospitaliers. Donc le test salivaire permettrait d'envoyer 100% de personnes positives dans les centres hospitaliers. Et pas seulement 10%.
Le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de repérer ces patients asymptomatiques. Ces tests salivaires, ils seraient destinés prioritairement à ceux qui n'ont pas de symptômes.
Oui, c'est bien ça. Donc le test de référence, ça reste le test nasopharyngé, qu'il faut, selon moi, réserver aux personnes symptomatiques qui se rendent à l'hôpital. Et par contre, pour les gens asymptomatiques, il faut réserver le test salivaire, qui est certes moins efficace, mais quand même très efficace malgré tout, et qui permettrait un pré-tri.
Le CHU de Liège avait stoppé la semaine dernière ses centres de dépistage débordés, incapables d'encore savoir respecter les délais. Aujourd'hui, ils reprennent justement avec ces tests salivaires. C'est localisé à Liège. Comment ça se fait que cette solution n'est pas plus répandue ailleurs ?
C'est parce qu'on essaye de montrer l'exemple. C'est nous qui avons développé le test salivaire. Donc on l'a d'abord utilisé à l'Université de Liège sur nos étudiants et les membres du personnel. Mais on a de très bonnes relations évidemment avec le CHU qui a compris évidemment l'intérêt de ces tests salivaires qu'il fallait les mettre en application dès ce lundi. Mais on espère que ça va faire tâche d'huile évidemment.
Il y a un blocage politique en fait. Il faut de nouveau une autorisation pour que ces critères soient validés par les autorités.
Oui, c'est ça. Il faut une autorisation qu'on n'a pas pour l'instant, mais l'idée fait son chemin. Donc on a adressé une lettre au ministre Van den Broek et à la ministre Morial. Je pense qu'ils sont sensibles au fait que le test salivaire pourrait être une solution pour désengorger les hôpitaux et surtout mettre le doigt sur les personnes qui sont asymptomatiques mais porteuses de virus et qui sont contaminants.
À l'université, cette stratégie, vous avez expliqué, vous permet d'avoir des actions localisées plutôt que des actions globales qui vous obligeraient à fermer les portes de l'UNIF dans son ensemble. Ça doit être le même principe en fait, qui doit dicter l'échelon national. Le but, c'est de séparer les symptomatiques et les asymptomatiques, d'être plus efficace avec ces centres, éviter la saturation et surtout éviter le lockdown.
Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée des tests salivaires et du déploiement des tests à grande échelle. Il faut absolument éviter le confinement à nouveau parce que c'est un désastre d'un point de vue économique et d'un point de vue psychologique. Puis les jeunes doivent vivre, les entreprises doivent tourner, évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment celle-là. C'est d'essayer de soigner les gens qui sont malades du coronavirus. Et à côté de ça, évidemment, essayer de trier dans la population population, les gens qui sont porteurs, et qu'il faut écarter au plus vite pour que ceux-ci ne propagent pas l'épidémie. C'est la seule solution pour contrôler l'épidémie.
Oui, on évoque le scénario d'un lockdown. Fabrice Bureau, on sait que la situation dans les milieux estudiantins reste préoccupante. Écoutez à ce propos le docteur Eric Giving, qui coordonne le centre de tri et de testing de la clinique Saint-Pierre d'Ottigny, et qui est concerné évidemment de près par la situation de l'université de Louvain-la-Neuve sur la même commune.
La situation semble nous échapper et être dépassée. Et donc, les personnes plus âgées, plus à risque, vont devoir faire le nécessaire pour se protéger, un peu comme c'était au moment du confinement, avec des mesures qui ne seront peut-être pas aussi strictes, mais voilà. Et donc, c'est malheureux de constater que ces personnes-là, ce sont elles qui sont en train de payer les conséquences de l'insouciance des étudiants.
Fabrice Bureau, le dépistage massif était désigné comme la clé pour faire face à cette deuxième vague. On y est là. Est-ce qu'on est prêt, selon vous ?
On sera bientôt prêt. La plateforme nationale BIS sera mise sur pied le 1er novembre. Donc, bon, il faut encore attendre à peu près 3 semaines pour que nous soyons prêts à faire du testing massif.
Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre encore 3 semaines ?
Logiquement, il aurait fallu aller un peu plus vite, effectivement, mais on n'aura pas le choix parce que la plateforme BIS a nécessité l'achat de machines qui n'arrivent que maintenant, et puis il faut une mise en place, donc ça ne sera pas avant 3 semaines.
Alors vous parlez de plateforme BIS, en quoi elle est différente de ce qui avait été mis en place lors de la première vague et du premier confinement ?
La plateforme BIS, elle est vraiment basée sur une réplication de ce qu'on a fait à Liège. Donc on a développé un laboratoire qui est celui qui a fait le plus de tests jusqu'à maintenant en Belgique. Et pourquoi on y est arrivé ? Parce que justement on s'est affranchi des réactifs commerciaux en fabriquant nos propres réactifs. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est une réplication de la plateforme de Liège dans 7 autres universités. Donc ce seront des universités maintenant, mais qui seront évidemment en cheville avec des laboratoires de biologie clinique agréés qui s'occuperont du pré- et du post-analytique. Donc les universités vont s'occuper de l'analyse, mais tout ce qui est relation avec le patient, etc., ce sera avec les laboratoires de biologie clinique qui formeront des tandems avec les laboratoires universitaires.
Pour comprendre, pour que le grand public comprenne un peu ce qui se passe, c'est donc, en fait, ce sont des outils publics. L'ensemble de la chaîne va être contrôlé par le public. On ne va plus être dépendant de ces réactifs, notamment produits par des grosses boîtes commerciales à l'étranger et qui sont actuellement en pénurie. L'objectif, c'est de ramener ça en Belgique, l'ensemble de la filière.
Oui, c'est ça, et de rendre tout public. Donc ce seront bien des universités associées à des laboratoires de biologie clinique, mais de centres hospitaliers universitaires. Et l'ensemble utilisera des plastiques et des réactifs purement belges que l'on a mis au point à partir de l'Université de Liège. Donc on est complètement autonome en ce qui concerne les réactifs et les plastiques.
Et pourtant, vous dites qu'il faudra encore attendre parce que vous avez dû attendre des machines. Et il y a aussi une certaine paperasserie belge aussi qui a compliqué la donne. Pourquoi se fait-il qu'on doit encore attendre ? Je dirais, on savait qu'il y avait un risque de deuxième vague à l'automne. Et là, vous dites on doit encore attendre début novembre pour que cette grande plateforme soit opérationnelle.
Oui, surtout que l'idée a émergé au mois de juin. Donc il a fallu entre le mois de juin...
Donc vous avez alerté les autorités au mois de juin.
Oui, bien sûr, oui. Mais bon, le problème le plus important, dont on ne parle jamais, ce sont les marchés publics, les cahiers des charges, etc., qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir du matériel. Je pense qu'en période de crise telle que la crise du coronavirus, il faudrait passer au-dessus des marchés publics.
Et vous, dès que vous avez vu poindre ces pénuries... Avant le confinement, vous avez été acheté vous-même, en fait, sur les marchés, certains produits pour mettre en place cette solution à Liège.
Oui,
vous n'avez pas attendu ces marchés publics, du coup ?
Non, pas vraiment. Donc, on est parmi les rares. Et aussi, on n'aura pas le prix Nobel pour ce qu'on a fait, évidemment, mais je pense que la qualité qu'on a eue, finalement, c'est d'anticiper. Et donc, effectivement, on a acheté des machines, on a acheté des matières premières, des réactifs, des produits chimiques, avant que la pénurie n'arrive.
Et ça souligne en creux, du coup, les failles du système de manière nationale. À l'époque, cette première plateforme, elle avait été mise en place un peu pour sauver les meubles. Ici, vous avez l'impression que, véritablement, le contexte a changé. Elle va pouvoir résister, cette plateforme. Ça va être l'outil clé pour affronter la deuxième vague.
Oui, c'est un outil qui va permettre de faire au moins 50 000 tests par jour. Si on fait du test salivaire et du pooling, on pourra en faire 150 000 peut-être. Et en plus, c'est quelque chose qui est complètement pérenne. Donc c'est une plateforme qu'on pourra garder sur une longue distance pour même faire face aux futures épidémies.
Fabrice Bureau, en tant que scientifique de terrain, vous êtes dans l'opérationnel et vous avez donc besoin de lignes claires. Est-ce que, selon vous, le monde politique sait où il va aujourd'hui ?
Oh, je pense que oui, plus ou moins, mais le problème du pouvoir politique, c'est que ces gens sont de bonne volonté, sont dans l'action toujours. Hein, donc je n'ai pas grand-chose à leur reprocher depuis le début de la crise, mais ils entendent des sons discordants qui proviennent de toutes sortes d'experts, qui viennent parfois avec leur boule de cristal prédire des choses. Et donc, comme les discours sont discordants, c'est très difficile pour le monde politique de prendre les bonnes décisions.
Et donc c'est les messages scientifiques qui brouillent l'action politique ?
Oh, de certains, en tout cas, oui. Je pense que c'est trop discordant pour que le monde politique sache quoi faire précisément. Oui.
Réserver les tests dans le nez pour les personnes symptomatiques et généraliser les tests salivaires pour les asymptomatiques. Cela permettrait un pré-tri pour désengorger les centres de dépistage. Merci beaucoup Fabrice Bureau, vice-recteur à la recherche à l'Université de Liège, d'avoir été l'invité de la matinale. Vous écoutez la première, il est 8h.